de mettre des mots sur certains mots qui sont en train de causer vraiment du mal à l'île de Mayotte.
Eh bien, on va écouter justement un petit reportage d'une dizaine de minutes qui a été donc c'est une prise de son qui a été réalisée par une militante de l'association Survie, hein, cette association qui dénonce l'action de la France-Afrique. Donc c'est Gisèle Montaubric qui a pris ce son à l'occasion de la projection du film Tropique de la violence, un film de Manuel Shapira de 2022, qui a été projeté dans le cadre du festival Cinéma et Droits de l'Homme, qui a eu lieu du 6 au 21 janvier à Toulouse. Et donc, on va entendre les échanges entre La Salle et Rémi Carayol. Vous allez entendre de qui il s'agit, c'est un journaliste. Il est présenté dans le reportage.
Oui, je me présente d'abord, je suis Philippe Berbrier et je représente ici les amis du monde diplomatique. On va voir ce soir donc une œuvre intitulée « Tropique de la violence » réalisée par Manuel Shapira. Le film présente les aventures d'un garçon qui s'intègre, par défaut pourrait-on dire, à une bande de jeunes qui sévit dans des bidonvilles de Mayotte. Pourquoi ce thème? Je rappellerai ici le début de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, etc., etc. Pour nous aider à échanger sur ce thème après la projection, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Rémi Carayol, qui est journaliste, qui a travaillé à Jeune Afrique, et qui est pigiste au média, à Mediapart, au Monde Diplo, qui est coordinateur du comité éditorial d'Afrique 21, et qui, par ailleurs, a fondé deux journaux dans l'archipel des Comores, pardon, je bafouille, Kashkazi en 2005 et Upanga en 2009.
C'était où chez toi? C'est un secret?
Un souvenir.
On a parlé d'un garçon disparu depuis quelques mois. Sa mère est morte.
Ici, si t'es faible, tu crèves.
Pourquoi elle m'a laissé?
Installe-toi. Oh, stop! La mère de gloire, mon chou. Ici, on doit gagner ce qu'on mange. T'as plus jeu.
On est en France. Il y a des endroits pour les orphelins qui peuvent t'accueillir.
On va voir ce qu'il a dans le ventre.
Qu'est-ce que tu fais là?
Personne ne vous veut dans cette île.
Il y avait des corps qui flottaient autour de moi.
Bon, sacré courage pour traverser ça. Hein.
Est-ce que pour lui, parler de l'île de Mayotte est justifié dans un festival sur les droits humains ou pas? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bah, le film lui-même parle d'une question d'accès aux droits, en fait, de non-accès aux droits. Ce film met en scène des enfants qui, pour certains d'entre eux, ont été livrés à eux-mêmes pendant leur enfance, leur adolescence et parfois au début de leur âge adulte, parce que à Mayotte, il y a énormément d'expulsions de personnes comoriennes, de nationalité comorienne, qui viennent des autres îles de l'archipel des Comores. Et lorsque ces personnes sont expulsées, souvent dans le cadre d'une législation qui est particulière à Mayotte, qui n'est pas la même que celle qui est appliquée dans le reste de la France, y compris les autres outre-mer, à l'exception de la Guyane, qui a aussi une législation spécifique, lorsque donc, les personnes sont expulsées dans des conditions qui sont beaucoup plus beaucoup moins strictes que dans le reste du territoire. Il se trouve que souvent les enfants de ces personnes restent à Mayotte. Et c'est là qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors souvent c'est le voisinage, ou c'est une tante, ou c'est une grand-mère qui s'en occupe, mais l'autorité est tout de même moindre que si c'est la mère, souvent c'est la mère, ou le père. Et c'est souvent aussi des enfants qui ne sont pas scolarisés, ou en tout cas qui ont été scolarisés, mais qui ne le sont plus, parce que là aussi il y a un problème d'accès au droit, un droit élémentaire qui est celui de la scolarisation pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc ces enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes et ils s'organisent, comme on le voit dans le film, entre eux, dans ce qu'on certains appellent des gangs, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne suis pas sûr, pour survivre, pour essayer de s'entraider, mais aussi pour se constituer en bandes qui vont chaparder, voire organiser des cambriolages, voire agresser de temps en temps des personnes pour essayer de gagner de quoi vivre. Et de quoi parfois aussi s'implanter dans une zone. Juste préciser qu'à un moment donné, moi c'est une image qui m'a marqué, on voit les enfants qui font les poubelles. À partir de 2004, 2005, 2006, on a commencé à voir des enfants qui faisaient les poubelles, ça se voyait pas avant. C'était complètement impossible même à imaginer en fait. Et c'est parce que c'est à ce moment-là que la France a durci sa politique migratoire, a commencé à expulser de plus en plus de personnes, et que des enfants se sont retrouvés en fait livrés à eux-mêmes et n'avaient plus leur mère, en général leur mère, ou leur tante, ou leur grande sœur pour s'occuper.
Oh, stop. La mère de gloire, mon cul.
Alors, je vais pas faire toute l'historique de Mayotte, mais il y a quand même, il me semble, un point important à préciser. Au début du film, il est indiqué que Mayotte est à 60 km de l'archipel des Comores. Alors plus précisément, Mayotte fait partie intégrante de l'archipel des Comores. C'est l'île, mais la différence, c'est que Mayotte est restée française au moment de la décolonisation de l'archipel, alors que les trois autres îles de l'archipel, qui sont la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, ont opté pour l'indépendance. Alors je ne vais pas non plus faire un cours d'histoire, mais c'est quand même important de le préciser parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi il y a tant de personnes en situation irrégulière sur Mayotte. C'est qu'il y a toute une histoire en fait, commune entre les différents habitants des quatre îles, avec des spécificités sur chaque île, évidemment, mais tout de même, on est dans une population qui, grosso modo, vit de la même manière qu'elle se trouve en Grande Comore ou à Mayotte, par exemple, ou en Jouan ou à Mouilly. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a tant de personnes en situation irrégulière, parce qu'en fait, ça remonte à assez peu de temps, la séparation de Mayotte avec les autres îles, c'est en 75. Et l'instauration d'un visa entre Mayotte et les autres îles, c'est en 95. Donc c'est relativement récent, et dans cette période-là, des gens se sont installés, venant des autres îles. Les gens de Mayotte avaient eux-mêmes des liens avec les habitants des autres îles, des liens familiaux notamment, tout ça a constitué ce territoire qui aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui de temps en temps dans les journaux, pour parler essentiellement de l'immigration clandestine. Alors c'est un terme qui n'est pas forcément très adapté à la situation de Mayotte, qui est une situation vraiment unique, je crois, en fait, en tout cas dans l'histoire de France, et se pose énormément de problématiques qui sont liées à cette situation-là, voilà, et qui sont liées à cette histoire très particulière d'un territoire colonisé par la France et qui a été ensuite disloqué.
À l'historique et à l'origine de cette départementalisation de Mayotte. Mais là, bon, moi je suis membre de Survie, et Survie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui dénonce ce qu'on appelle la France-Afrique, et là on est typiquement dans un comportement français lié à la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il était très important pour la France de maintenir sa présence là-bas dans ces territoires. Donc elle a illégalement, en ayant enfreint le droit international, elle a illégalement fait en sorte qu'effectivement il y ait une partie des Comores qui reste française. Et comme elle fait partout dans les territoires où elle veut garder la mainmise, ben elle divise pour mieux régner. Donc on utilise divers stratagèmes pour pouvoir diviser la population, créer des migrants et créer des divisions avec des gens qui, à l'origine, n'en avaient aucune, puisqu'ils étaient tous colonisés.
Les fonctionnaires français avaient averti le pouvoir politique de dire « Attention, on va créer un monstre !» Et c'est effectivement un monstre, puisque Mayotte, où il y a une pauvreté très importante, où les services publics ne sont pas à la hauteur d'un département français, représente un îlot de prospérité par rapport aux autres îles de l'archipel, voire de Madagascar. Toute la question, c'est pourquoi encore aujourd'hui, on a une métropole, un territoire situé à 10 000 km de là, dans un contexte économique, social, complètement différent. Bon, ben là, en fait, la France a créé un monstre, effectivement.
La France a créé un monstre à Mayotte. Est-ce que tu as pu constater de ton côté ?
Ce que j'ai constaté, c'est vraiment que la situation là-bas est très critique. On en entend un petit peu parler ici, et c'est très bien que vous en parliez là. Donc merci beaucoup à vous. Mais c'est très critique par rapport à tout ce qui a pu être énuméré dans ce petit extrait. Après, le rôle de la France, ce serait vraiment à creuser. Je pense qu'il faudrait prendre beaucoup de temps pour parler des causes, de l'origine de toutes ces difficultés. Moi, je peux parler de ce que j'ai constaté sur place, et c'est exactement ce que j'ai entendu là. Hein. C'est de la délinquance, des affrontements entre bandes de jeunes qui sont voués à eux-mêmes, qui vivent dans les forêts, qui vivent au bord des plages, dans les mangroves, qui se construisent des abris de fortune, parce qu'ils sont arrivés là, de façon clandestine, et parfois des parents qui ont été renvoyés dans leur pays, des enfants qui sont retrouvés tout seuls sur l'île, et qui, du coup, font ce qu'ils peuvent pour survivre, quoi. Donc il y a des bidonvilles qui ont été construits, mais qui sont détruits sans solution de relogement. Et donc voilà, ça amène à des grosses difficultés, à une population qui en a marre, une population qui souffre. Si on ajoute à ça les problèmes de pénurie d'eau, pas mal de problèmes qui sont sur... qu'ils subissent. Et voilà, en ce moment, il y a vraiment un mouvement social, on peut parler de ça, qui a des allures de début de guerre civile même, parce qu'il y a vraiment des affrontements entre la population, avec les forces de l'ordre, entre les différents quartiers. Enfin, vraiment, tout le monde cherche ou rejette la faute sur l'autre, et ça, c'est pas bon du tout.
On sent bien, Ange, dans les terrains sur lesquels tu vas t'exprimer ou où tu vas partager ton art du slam, que tu as un engagement viscéral par rapport aux choses du monde. On s'est croisés, une des premières fois où on s'est croisés, c'était déjà à l'occasion de l'expulsion des mineurs isolés quand ils avaient campé sur les allées Jules Le Guedde.
Exactement.
Et à cette époque-là, tu avais présenté un slam à Africlab, au village des arts africains.
Oui, exactement.
Qui faisait résonance.
Oui, parce que c'était ça m'avait beaucoup touché. J'étais passé la veille avec ma fille à vélo, et j'étais tombé sans le savoir sur ce campement-là de migrants qui les pauvres étaient. En plus, paradoxalement, ils étaient devant le tribunal. Donc, j'ai trouvé cette image très 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 dure et très significative aussi du mal qu'on vit en ce moment. Et toutes ces choses me touchent énormément. Et j'ai eu ce besoin d'écrire en rentrant pour me libérer de cette émotion forte et pour en parler aussi autour de moi et que ça résonne quoi dans la tête et dans les cœurs de chacun.
On peut écouter ton texte ?
Avec plaisir. J- les ai regardés, ils m'ont regardé, j'ai baissé les yeux. On se ressemble pourtant, mais nous ne sommes pas nés sous les mêmes cieux. Ils se sont vus en moi, je me suis vu en eux. J'ai été pris des mois, je les ai sentis envieux. À vélo, sourire aux lèvres, ma fille sur son siège. Je ne suis pas croyant, mais pour eux, je peux allumer un cierge. Je dormais tranquillement, alors qu'ils étaient pris au piège des centres de CRS, de la violence dans chaque pièce, face à face. Avec des hommes pas très pisses, maintenant ils dorment là où ils pissent, la vie leur met des gifles à la Will Smith. Ma fille m'a dit, ils sont noirs comme toi. Mais comment lui expliquer qu'ils n'ont même pas un toit? Que ce qu'ils ont sur les épaules, je pourrais pas porter le poids. Que les droits de l'homme existent, mais que ça ne les concerne pas. Mais demain, j'y retourne, et je les regarderai en face. Je leur parlerai, je les écouterai me parler de leur enfance, se plaindre des offenses, me dire qu'ils en ont tant rêvé, mais qu'ils vivent un vrai cauchemar en France.
Merci beaucoup, Ange.
Avec plaisir.
Mais qui voilà au téléphone?
C'est la collaboratrice surprise.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Comment ça va?
Il ne te reconnaît pas.
Je ne connais pas la voix.
Alors, on va...
Beauté,
oh. Comment ça va? C'est incroyable.
Ça va?
Ça va, ça va. J'ai cru reconnaître au départ, mais je me dis, c'est pas possible. Avec tout ce que tu as à faire en ce moment en plus.
Moi, j'ai deux questions à te poser, Ange.
Ok.
Alors, la première, c'est... J'ai écouté une interview de toi dans laquelle on t'a posé une question, on t'a demandé, est-ce que tu vis de ta passion? Et j'ai bien aimé ta réponse. Tu as dit, je ne vis pas de ma passion, mais ma passion me fait vivre.
Exactement.
J'ai trouvé une réponse très, très forte. Et la question que j'ai eue de suite, quand je t'ai entendu, c'est de savoir qu'est-ce que tu aimerais réaliser grâce au slam, à travers le slam, que tu n'as pas encore fait. Quel est le rêve fou que tu aimerais réaliser?
Waouh, quelle question. Déjà, je suis encore sous le choc de ta présence, donc vraiment une grosse pensée à toi.
On va peut-être pour les auditeurs rappeler qui est Nora. Ange, si tu veux bien nous la présenter, Nora.
Ah là là, mais Nora, c'est...
Nora Mekemeza.
Oui, c'est une artiste déjà incroyable. C'est une artiste incroyable que je conseille à tous d'aller écouter ce qu'elle fait, d'aller la voir sur scène.
Nous avons reçu au petit papier et que nous sommes en train d'embaucher.
Tout à l'heure. Ah, ben voilà. En plus, on sait où la trouver. Mais du coup, c'est une artiste incroyable et une très très belle personne qui à découvrir, à écouter, à prenez le temps de discuter avec elle. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Oh. Et merci pour ta question. Déjà la première partie, c'est ça, c'est je ne vis pas de ma passion, même si je commence petit à petit à le faire, mais c'est surtout que ma passion me fait vivre et comme j'ai dit en début de l'émission, c'est sans cette passion, j'aurais été une toute autre personne et je pense que j'aurais vécu des choses beaucoup plus difficilement et cette passion me maintient en vie en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ressens des émotions parfois très fortes et le fait de pouvoir les exprimer me permet de me sentir bien et d'être en vie. Au niveau de mentalement, de me stimuler et d'être heureux en fait. Donc voilà, donc je ne peux pas vivre sans cette passion. Donc je dois faire pas mal de choses à côté pour pouvoir vivre au sens où les gens pensent. Mais c'est l'écriture, c'est le slam, c'est les mots qui me permettent de me sentir vivant en tout cas.
Nora, on te remercie pour cette question impromptue. Et puis, la prochaine fois, tu viens de les poser en studio, tes questions. Hein.
Oui, oui. Mais c'est la deuxième question.
Il y avait une deuxième partie. Ah oui, il y avait une deuxième partie. Je vais répondre rapidement. Je vais essayer de répondre rapidement. Moi, j'avais un rêve, c'était d'aller jouer mon spectacle à Brazzaville et d'aller toucher les cœurs à Brazzaville. Je l'ai fait, donc c'est super. Et voilà, ce que je souhaite, c'est faire le tour de l'Afrique et de monter ma propre structure, que ce soit un centre culturel, un centre musical à Brazzaville. Donc c'est un projet que j'ai en tête et qui va voir le jour un jour, forcément.
Je te le souhaite de de tout mon cœur que tu réalises ce rêve. Et j'ai une deuxième question, c'est même pas une question, c'est un défi.
Oh.
On est en mars 2024. Pour moi, ce serait inconcevable qu'on finisse l'année 2024 sans travailler ensemble. Donc, soit tu m'écris un texte que je chante, soit on se retrouve quelque part et on travaille ensemble.
Ah ben, on se retrouve dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on s'écrit tout à l'heure, on se retrouve la semaine prochaine et on écrit quelque chose. On le proposera à la radio.
Ah vous, oui. avez vous avez vu les filles, c'est que vous avez créé là.
Là, on est dans l'instant là.
Exactement.
On est dans le.
Exactement. Mais on s'appelle tout à l'heure, ma sœur. Merci beaucoup.
Et on vous donne rendez-vous à tous les deux pour venir effectivement présenter ce que vous aurez co-créé.
Oula.
Voilà.
On a le défi. Le défi. C'est transformé en projet.
Merci beaucoup.
Merci Passez. Nora.
Merci.
À très bientôt Nora.
À très bientôt. Au revoir.
Ange Minkala, on rappelle, en concert, le samedi 16 mars à la MJC Roguet à 21h dans le cadre des Nuits du Slam. On te remercie beaucoup.
Merci
pour
à vous
tout
pour
ce que tu nous as partagé. C'était très beau, c'était très fort.
Merci beaucoup. C'est
on
un
continue
très bon
de
moment,
te ouais. suivre et donc on te retrouvera pour tes projets avec Nora dans quelques temps.
Avec plaisir. Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci Ange. Vous êtes toujours sur Les Petits Papiers, sur Canal Sud. Et c'est vendredi 1er mars. Je vous propose donc qu'il va y avoir pas mal d'actualités, notamment là ce sera donc, sachez que le 9 mars, donc c'est un cabaret proposé par le, enfin un slamouraï, je vais y arriver, le slamouraï show. Je te propose qu'on s'écoute ça quelques instants. D'accord, vous êtes bien sur Les Petits Papiers, Canal Sud. Le cabaret du chat-soleil.
Bonjour, moi c'est Cyril Estivalé, alias Jacques Lemoine, J-A-C-K-L-E et moine plus loin, petit moine de cérémonie et humble. Et je suis trésorier du cabaret associatif Le Chat-Soleil qu'on vient de monter. Là, on va se produire au Caméléon le samedi 9 mars, inscription à 19h30. C'est une scène ouverte, slam, impro, chant, rap, accessoires. Je veux parler des instruments de musique, par exemple. Et c'est une scène ouverte à tous les artistes. On a entre 2, 3, 5 minutes maximum pour s'exprimer afin de laisser la place à tous. Il y a une conso qui est offerte par participant, par Slamouraï. Donc c'est le Samouraï Show qui est une création bénévole du cabaret Le Chat-Soleil.
Jean Licossade, 85 ans mais en pleine forme. Et j'ai écrit un journal pendant toute ma vie. Je suis président de l'association du Chat-Soleil. Ce qui importe, c'est l'égalité de chacun, quelle que soit sa situation, et que chacun puisse s'exprimer dans toute sa vérité et sa volonté. Il n'y a pas de règles qui a été conçu au départ, ou des thèmes, ou des sujets qui sont à tabou en quelque manière que ce soit, de toute façon. C'est la liberté absolue. Moi qui suis un survivant de 68, je crois que c'est cet esprit-là que je vais retrouver, quelque part dans ce cabaret aussi. C'est la liberté totale d'échange et de penser, sans arrière-pensée et sans violence.
Alors vous pouvez venir avec votre son sur clé USB, parce qu'il y aura tout l'équipement sonore qu'il faut. Il y aura une restauration pour les spectateurs et les samouraïs à tout petit prix. Au Caméléon, c'est un endroit cool. Pour les spectateurs, la place est en 3€. Ceux qui peuvent donner un peu plus, 5. Et ceux qui sont beaucoup plus fortunés, s'ils le peuvent, 7€.
Dans le cadre du podcast, vous entendrez d'autres déclamations de Cyril Estivalé, alias Jack Lemoine, ainsi que Jean-Louis Cossade. Donc, on vous donne rendez-vous le samedi 9 mars au Caméléon, donc, qui est donc, à côté donc, du Pont Saint-Pierre. Ce qui se passe au Tchad nous touche également. Ce qui se passe partout, eh bien, arrive à tous nos frères et sœurs humaines. Et donc, syndicalisme, néocolonialisme et solidarité internationale au Tchad, c'est notamment Demba Karium Kamadji, qui est militante syndicale à l'Union des syndicats du Tchad et qui vous donne rendez-vous pour donc évoquer tout ce qui se passe au Tchad. Et plus généralement, c'est la France-Afrique aussi, hein, généralement. Hein. Et ça se passe mercredi 6 mars à 19h et c'est à la Bourse du Travail.
Et c'est l'association Survie qui organise.
Survie, merci. Et au fait, vous savez qui c'est qu'on a reçu la semaine dernière ?
C'est oui, tout. C'était Ciné-Palestine.
Et puis après, bien sûr, ça commence...
10e édition du festival du 4 au 12 mars à Toulouse et en région.
Un programme absolument du tonnerre. Et afin que les cordonniers soient à peu près bien chaussés de temps en temps, eh bien, Canal Sud vous donne rendez-vous aujourd'hui même, vendredi 1er mars, dès 18h30. Ce sera l'exposition collaborative avec l'artiste Nawas Chaloub. C'est une exposition espace d'échange et d'action. C'est notamment, voilà, la thématique, c'est bien entendu la Palestine. Eh bien, l'artiste, il se trouve qu'il y avait un rassemblement ce mercredi et il a pu s'exprimer devant donc tous les gens qui étaient rassemblés, une foule très émue. Allez, on reste 3 minutes encore ensemble et on écoute donc Nawas Chaloub qui nous parlait, qui nous interpellait.
Est-ce que je commence par rapport à la silence international devant une massacre et les devant les yeux dans les médias, et les sons palestiniens, elle est assez présentée en fait dans les médias. J'ai pas envie d'entrer en fait dans le détail de mon histoire personnelle, parce que l'histoire collective en Palestine en général, pas seulement à Gaza, catastrophique. Oui, on fait des manifs, on fait des activités une fois par semaine, deux fois par semaine. Après, on retourne en fait dans notre vie. Mais on imagine ce moment-là à Gaza, dans plusieurs endroits à Gaza. Il y a des gens qui mangent un morceau de pain tous les 3 ou 4 jours. Juste pour parler, il y a 30 000 qui sont comptés, qui sont passés à l'hôpital pour mettre les noms. Mais il y a beaucoup qui sont disparus. Ils sont fondus avec la terre de Palestine. Il y a beaucoup, beaucoup de morts par les maladies, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il y a ça, en 2024, et devant nous. Et si juste on ouvre notre téléphone, on voit tout. J'espère le message qu'il est arrivé à l'intérieur de chacun entre vous. Palestine, c'est vous, c'est la justice, c'est le droit de l'homme, c'est l'occupation. Elle a pris tout de les Palestiniens, mais elle n'a pas pris les dignités. Jamais. La guerre avec les sionistes, c'est pas seulement la guerre avec les Palestiniens. Ou soit avec la Palestine. La guerre de l'islamisme, c'est avec tout le monde, avec vous, à l'intérieur de votre pays. Ici en France, aux États-Unis, en Europe, et même dans des pays arabes sionistes aussi. Merci d'être là. Merci d'être avec la Palestine. Merci de sentir à l'intérieur de vous-même la Palestine.
Palestine! 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 Palestine!
C'était Les Petits Papiers, ce vendredi 1er mars. Flore, merci infiniment.
Merci à toi, Fatima.
Merci infiniment.